Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Graphite 94.9. Vous écoutez actuellement l'émission Les Échos de l'innovation, émission qui a été créée dans le cadre du cours de SI1, qui est donc le cours Sciences et Débats Publics animé par Monsieur Clément Mabi au sein de l'Université de Technologie de Compiègne. Cette émission va vous être présentée par trois étudiantes UTCN. On a Lise Ferré.
Bonjour.
Sarah Alata.
Bonjour.
Et moi-même, Coralie Boer.
Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est assez d'actualité, l'Elotech. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ce terme, je vais vous le définir rapidement. L'Elotech se base sur trois idées principales, la durabilité, l'utilité et l'accessibilité. Ça n'est pas seulement référence aux technologies, mais aussi aux pratiques, aux modes de vie et même aux courants de pensée qui apportent une approche plus durable aux modes de consommation actuels. Plus globalement, l'Elotech vise à revenir aux fondamentaux, à revenir à l'essentiel, afin de montrer qu'il existe des alternatives au high-tech pour limiter son impact environnemental, le tout en essayant d'être le plus accessible possible. Donc.
Mais qu'en est-il exactement? Quel pourrait être son intérêt dans le cadre d'une nécessaire transition écologique? C'est à ce genre de questions que nous allons essayer de répondre tout au long de cette émission. Et afin de bien décortiquer le terme low-tech, je propose qu'on commence par un quiz oui-non. Vous devez répondre, enfin, je vais vous poser quelques questions très très vastes, on va dire, sur les low-tech. Et vous devez répondre de manière très laconique par oui ou non dans un temps limité. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles?
Oui. Ouais.
Alors... Si vous aviez à décrire les low-tech en trois termes, comment les décririez-vous?
Accessible, durable et utile.
Soutenable, ouais.
Ouais, soutenable, éthique.
Utilité, accessibilité, tout ça.
Ok. Avez-vous déjà fabriqué un objet low-tech?
Non, jamais.
Non.
Les pratiques low-tech sont-elles contraignantes selon vous?
Non.
Non.
Les pratiques low-tech sont-elles moins coûteuses que les pratiques high-tech?
Ouais.
Est-ce que les low-tech sont l'avenir de la technologie?
Oui.
Ça dépend.
Est-ce que pour vous, les low-tech sont forcément moins performantes que les high-tech?
Non.
Non.
Ok. Alors, les questions, vous avez bien répondu aux questions. La première, c'était comment décririez-vous les low-tech en trois termes? Généralement, c'est des termes qui sont utilisés, que ce soit sur Internet ou pour les gens qui n'ont pas vraiment une très très grande idée. Donc voilà, accessibilité, durabilité et...
Et moi, j'avais dit soutenabilité.
Oui, moi, éthique, voilà. Mais voilà. C'est un terme un peu général.
Ouais, voilà.
Ok.
Pour la fabrication d'un objet low-tech.
Est-ce que toi c'est le cas? Est-ce que toi t'en as fait?
Pour ma part, oui. J'ai suivi une UV, donc une unité de valeur ici à l'UTC pendant l'intersemestre, qui s'appelle Alternative Low-Tech. Donc ça a duré une semaine et le but était en fait de trouver des alternatives low-tech et des problèmes concrets. Pour ma part, dans mon groupe, on devait fabriquer une sorte de cheminée tout à fait low-tech. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des matériaux qui étaient disponibles à l'atelier TN4 ici à l'UTC. Et nous devions faire de nous-mêmes le montage tout en prenant en compte toutes les contraintes de l'habitation. Donc c'était vraiment une cheminée qui fonctionne encore aujourd'hui.
Et qui est utile du coup pour des personnes.
Oui, okay. qui chauffe bien. Qui chauffe bien, c'est
génial.
À l'étage, pas très loin d'ici de Compiègne. Et donc, voilà, ça nous a fait réfléchir sur la manière dont on pouvait trouver des alternatives et donc voir qu'on peut fabriquer par nous-mêmes des objets low-tech et donc qu'on est capable, quoi.
Oui, ça peut être une solution même chez toi, si t'as besoin d'une cheminée, plutôt d'acheter un truc compliqué, juste tu le construis toi-même, ça peut se faire, quoi. C'est hyper intéressant.
Oui, en effet. Alors, vous avez dit qu'elles étaient moins coûteuses que les high-tech.
Oui, je pense que c'est un des piliers de base du low-tech. C'est comme il y a l'accessibilité, c'est de réduire les coûts. Et je pense même qu'on en reviendra dessus, mais je pense que si le low-tech soit intéressant pour l'industrie, c'est que justement, ça peut servir à des entreprises d'avoir moins de coûts et donc d'être plus rentable.
Et puis même, au-delà de réduire les coûts, ça stimule aussi un peu l'économie locale. Donc les petits artisans de fabrication artisanale, ça peut même, à la limite, créer des emplois, que ce soit dans les secteurs, je sais pas, de la réparation, de la maintenance, tout ça. Donc,
Et donc, en fait, oui, moi aussi, je pense que c'est un peu... Enfin, ça peut être moins coûteux dans le sens où ça permet de préserver un savoir-faire traditionnel.
Oui.
Et donc, comme tu l'as dit, étant donné que c'est local, sur une échelle locale, donc c'est forcément moins coûteux, à mon avis. Alors, est-ce qu'elles sont l'avenir de la technologie?
Donc moi, j'ai dit oui.
Ouais,
toi, ça dépend.
Moi, j'ai dit ça dépend. Ça dépend dans le sens où, par exemple... Le numérique, on ne peut pas vraiment considérer ça comme quelque chose de low-tech.
Et je pense que... Je ne suis pas d'accord.
Ah oui?
Ouais, parce que je pense, on l'a vu justement dans une étude à l'heure qui s'appelle IS0, donc c'est quelque chose qu'on a en début d'études et qui traite justement de l'écologie et du low-tech. et pas que de ça, mais bref. Et on avait vu des exemples d'ordinateurs qui utilisaient, plutôt que d'utiliser des minerais hyper complexes, très précis, qu'on allait creuser dans la terre pour les extraire, etc., et c'était horrible écologiquement, plutôt faire ça, on utilisait des matériaux plus simples, genre du carbone, et on papeterie des papiers de carbone, et ça pouvait être utile pour les ordinateurs, même pour les batteries d'automobiles. Et donc je pense que même le numérique, tu peux le penser de manière low-tech. Même, par exemple, les tours où tu sais, quand on envoie un mail, le mail il pollue pas, mais comme c'est stocké et refroidi en permanence, ça pollue beaucoup. Et ben, il y a des idées qui font maintenant en informatique de, par exemple, éteindre, enfin, que les endroits où c'est stocké, ce soit plutôt que ça soit tout le temps allumé, elles sont éteintes et allumables sur demande. Donc si tu cherches à accéder à un mail, par exemple, et ben, tu vas prendre, au lieu que ce soit instantané, tu as 5 minutes, ce qui est très peu, le temps que la tour soit réallumée et que tu puisses accéder à ce qui était stocké. Donc ça aussi, c'est du low-tech, tu vois.
C'est vrai. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très répandu ou ça commence un peu?
Pas encore. Mais
est-ce
pas
que
encore.
C'est surtout accessible?
Oui.
Est-ce que ce n'est pas vraiment beaucoup plus difficile, comme tu l'as dit, d'éteindre la centrale et de la rallumer?
Non, c'est pas puis vu qu'on a quand même une technologie qui est super élevée, on peut quand même créer les centrales, on peut les faire. Enfin, créer les tours, on peut les faire. Donc, si se crée un système éteindre allumage, je pense qu'on peut réussir aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai, c'est pas du tout répandu. C'est des idées, des choses qui sont pensées. Mais je pense que même en info, le low-tech, c'est l'avenir.
Ok. Parce que moi, j'ai l'impression que dans le domaine du numérique, la pensée low-tech, elle n'est pas encore très développée chez les gens. Elle est plus développée, je ne sais pas, par exemple, comme tu l'as dit, création de cheminée, par exemple, ou dans les objets du quotidien. Mais le numérique, c'est un peu une étape de plus à franchir, j'ai l'impression. Les gens, ils vont avoir plus tendance à changer régulièrement de téléphone, d'ordinateur.
C'est vrai.
Voilà. Et surtout, j'ai surtout confiance que de nos jours, les gens ont plus confiance en une technologie qui est high-tech.
Oui.
Un exemple tout bête, hein. Je ne vois pas comment ça pourrait être l'avenir, dans le sens où il y a certains secteurs où on ne peut pas remplacer les high-tech dans les hôpitaux, par exemple. On
ne
peut pas trouver d'alternative low-tech à un scanner, à un IRM, ou à même un outil informatique, des algorithmes, etc.
Et puis toutes les données sont stockées
exactement
sur l'ordinateur.
Et c'est très très compliqué, en fait, de low-techiser ces aspects-là de la société.
Je suis d'accord. Il y a certains domaines, la médecine, c'est clairement un truc où moi, personnellement, je ne veux pas être opérée avec des moyens low-tech.
Oui.
Là, on la garde. La technologie est bienvenue. Franchement, la tech, je veux bien. Je suis d'accord. Mais alors, ça dépend du secteur, c'est vrai. Mais et c'est aussi vrai que pour l'instant, le numérique, on a plus confiance dans les technologies de pointe, etc. Mais quand je dis que c'est l'avenir, c'est que c'est ce qui, selon moi, va se passer dans les années qui vont suivre. Peut-être que c'est en train maintenant de commencer un petit peu. Ça dépend et que c'est pas aussi rapide dans tous les domaines. Mais je pense que d'ici peut-être 10 ans, j'en sais rien, ce sera ce qui se passe.
Oui, tu dis qu'il y a de belles perspectives.
Dans ce domaine-là, ouais.
Okay.
Je pense même qu'il faut miser là-dessus. Si vous nous écoutez, que vous êtes entrepreneur, pensez low-tech. Ça peut être utile pour vous.
Alors bon, c'était un bon petit retour. Hein.
nous avons posé des questions ensuite aux étudiants de l'UTC qui ont répondu sur un Google Form qu'on a posté sur un groupe Facebook.
Voilà. Donc après cette enquête, on a eu 102 réponses, ce qui reste quand même une part assez faible de la population. On est quand même conscient que c'est au sein d'une école d'ingénieurs et que c'est seulement une partie qui ont répondu. Mais malgré tout, on va quand même faire un retour sur les réponses qu'on a obtenues afin de voir un peu ce que la population...
Voilà, le but étant d'avoir un avis un peu plus large que le nôtre en introduction de cette émission.
Donc la première question qui a été posée aux étudiants, c'était « Pensez-vous savoir ce qu'est la low-tech ?» Donc on a eu des réponses très positives. 36,3% des étudiants disent « Absolument » et 41,2% disent que oui, mais ils ne savent pas particulièrement bien les définir. Et donc on a seulement 20% environ qui disent « Très peu connaître » ou « Ne pas connaître ». Donc pour l'instant, on peut affirmer que les étudiants sont au courant. Je pense que c'est le cas parce qu'on a une école quand même qui a beaucoup sensibilisé là-dessus. Justement, comme je disais, avec l'UV IS0 qui est obligatoire et qui nous incite à sortir sur des tels sujets. Je pense que oui, on peut dire qu'on peut sensibiliser là-dessus.
Après, IS0, c'est une UV qui est quand même assez récente. Je crois qu'elle a ouvert en 2022.
Et je crois que c'était notre promo. Oui, notre
et c'était
promo.
Voilà, notre première promo à subir ça. Et, donc voilà.
Oui, mais je pense que déjà, on a un truc très positif et ça montre que c'est ce qui...
Oui, c'est une démarche de sensibilisation qui est quand même intéressante.
Alors, la deuxième question, c'était qu'est-ce que la low-tech ? à 90%, donc c'est vraiment un grand pourcentage. Les étudiants pensent que c'est littéralement de la basse technologie. Et voilà, donc les 10% restants trouvent que c'est le retour des calèches et des pigeons voyageurs. D'autres pensent que c'est une catégorie de techniques polluantes et compliquées.
Donc on voit que les trois, c'était assez facile de répondre parce qu'il y a quand même deux réponses qui paraissent complètement absurdes. Et pourtant, il y a quand même, même si c'est pas beaucoup, on a quand même au total 10% pardon, des gens qui ont répondu à un truc qui n'est pas cohérent. Oui. Alors qu'avant, on avait pas mal de gens qui disaient savoir ce que c'était. Mais donc, beaucoup de personnes ont l'air de connaître, vraiment bien définir, mais ça reste une définition qui était simple.
Ensuite, troisième question, nous avons demandé, pensez-vous que la low-tech est l'opposé du high-tech ? Alors là, on a des avis qui sont partagés, on a environ 58% qui pensent que non, ce n'est pas l'opposé du high-tech, et 42% qui pensent que oui, c'est l'opposé du high-tech.
Alors c'est une question qui est assez large, donc pour dire que c'est littéralement l'opposé des high-tech, il faut dans un premier temps définir la high-tech.
Oui, et la low-tech aussi.
Et la low-tech aussi. Et donc, en fait, c'est un peu compliqué de dire, bon, voilà, le four solaire que j'ai, il est low-tech parce qu'il n'utilise pas d'électricité. Bon, ça rentre bien évidemment dans la définition littérale des low-tech, mais en soi, sur d'autres aspects, bon, je comprends en quelque sorte la raison pour laquelle les avis sont mitigés.
Et ouais. Puis après, ça dépend à quoi on compare.
Exactement.
Parce que si on compare, je sais pas, un objet très low-tech à une centrale nucléaire ou à un avion, oui. Là forcément, oui, c'est l'opposé du high-tech.
Puis, centrale nucléaire, ça reste un système qui est assez simple, dans lequel il n'y a pas de haute technologie qui est utilisée comme un ordinateur. Mais pourtant, c'est quand même plus compliqué que faire un feu de bois. Donc, oui, est-ce que c'est high-tech, est-ce que c'est low-tech ? C'est compliqué de définir. Et la question même, est-ce qu'on peut réellement créer une opposition entre low-tech et high-tech ? Ou que c'est deux systèmes qui vont, comme on disait tout à l'heure, on parlait du fait que en médecine ou en informatique, la différence entre low-tech et high-tech, elle n'est pas du tout claire. Bon, en médecine, c'est même pas envisageable vraiment. Et en informatique, je pense vraiment que c'est un très bon exemple du mouvement des deux qui vont fonctionner en même temps, parce que l'high-tech est nécessaire et que low-tech est important pour le futur.
Et donc, en fait, on ne peut pas avoir un avis qui est objectif dessus. Enfin, je trouve que c'est subjectif parce que tout est relatif, encore une fois. Et donc... Et en même temps, je trouve que les deux vont ensemble, dans le sens où s'il n'y a pas une logique de high-tech, s'il n'y a pas cette high-techisation, on va dire, de la société, s'il n'y a pas cette tendance à rajouter des couches de technologie, pardon, à certains aspects, et ben, il n'y a pas cette pensée low-tech derrière.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Je ne sais pas. Après, ça, c'est un modèle actuel qui pousse vers la consommation, etc., etc. Donc, c'est plus politique, mais peut-être qu'il faudrait aussi arrêter de toujours vouloir consommer plus et produire plus et aller vers des choses plus compliquées. Peut-être que le progrès, c'est pas forcément complexifier encore plus, mais plutôt justement chercher des choses plus simples ou plus durables.
Bah, c'est sûr que la low-tech, c'est un mode de pensée qui est complètement différent de celui d'high-tech, je pense.
Je pense aussi. Ensuite, pour voir si on a compris ce que c'était que la low-tech, on leur a demandé quels étaient les trois piliers. Donc il y avait accessibilité, éthique, durable, utile et donc fait de bois, où réellement personne n'a répondu, c'était juste un piège un peu hésitant. Et ils ont plutôt bien répondu, puisqu'on a donc 70% qui ont dit accessible. Ils pouvaient répondre à vous pouvez cocher plusieurs cases. Donc, on a 70% accessible, 98% durable, 65% utile et 63% éthique. Alors, en réalité, la low-tech est aussi éthique, mais les trois piliers étaient accessible, durable, utile. Et on voit que autant durable est vraiment en majorité. Et donc, ça paraît assez évident pour les étudiants que la low-tech, c'est durable. Mais utile, 65%, c'est quand même beaucoup, mais c'est autant qu'éthique pratiquement. Et c'est quand même bien moins marquant. Donc ça veut dire qu'ils ne sont moins conscients que l'utilité est primordiale et que c'est même un des concepts phares
de low-tech. Ensuite, on avait posé une question un peu pour tester, voilà, pas leur connaissance, mais leur approche vis-à-vis des low-tech. Donc on a proposé plusieurs technologies polluantes ou non, et on leur a demandé de choisir celles qu'ils pensaient polluantes. Donc on avait proposé un four solaire, un Raspberry Pi 5 et une tour d'ordinateur peu chère, une tablette neuve, une machine à laver qui dure 50 ans, et voilà. Ensuite, au niveau des réponses, Il y a 94% des étudiants qui pensent que la tablette neuve est une technologie polluante.
Effectivement, ça paraît assez évident.
Oui, c'est assez évident.
C'est une réponse très tranchée.
Surtout neuve, même pas reconditionnée, donc oui, ça se comprend. On a 28% des gens qui pensent que la machine à laver qui dure 50 ans est une technologie polluante.
Je pense que c'est plus mitigé déjà, ouais. Donc c'est normal que la réponse aussi soit le soit. Je pense que c'est une technologie low-tech, parce qu'on a vu qu'on ne va pas arrêter d'utiliser la machine à laver, c'est ridicule, on ne va pas arrêter ça. Par contre, justement, ce qui est une pensée low-tech, c'est de se dire on va garder les choses qu'on a et on va les faire perdurer dans le temps. Donc si elle dure 50 ans, c'est pratiquement, bon, c'est pas une vie, c'est une demi-vie, mais disons qu'on a une machine à laver à 25 ans, c'est quand même déjà pas mal. Tu prends, on peut avoir une toute notre vie pratiquement, et ça, c'est complètement une pensée low-tech, le fait de garder des objets qu'on a. Donc je comprends qu'ils étaient plus mitigés, mais ils ont été piégés.
Oui. Après, je trouve que c'est assez relatif dans le sens où une machine à laver qui dure 50 ans, il y a cette idée-là de durabilité, en effet, mais...
Est-ce qu'elle consomme beaucoup ?
Est-ce qu'elle consomme beaucoup ? Mais surtout, on peut remplacer ça par un objet qui est beaucoup plus low-tech, une machine à laver manuelle, ou même, encore pire, enfin, pour pousser le bouchon un peu plus loin, laver ses vêtements à la main, quoi.
Certes, mais déjà, le vêtement à la main, ça dépense beaucoup plus d'eau. C'est comme la vaisselle par rapport à la vaisselle à la main, ça dépensera plus d'eau de la vaisselle vêtement à la main qu'une machine à laver. Et en plus, faut être réaliste quand même, je pense pas qu'on pourra faire en sorte que tous les gens lâchent machine à laver et lavent à la main, même si je comprends que t'as raison dans le fond. Je pense que faut penser low-tech, mais il faut penser low-tech un peu réaliste, oui, et qu'il vaut mieux viser sur la durabilité que sur un changement radical de fonctionnement.
Alors, la question suivante, pardon, c'est considérez-vous avoir un mode de vie low-tech ? Là, on a eu des réponses très très partagées. 43% des étudiants pensent ne pas du tout avoir, enfin pas vraiment plutôt, avoir un mode de vie low-tech. 22% sont neutres. 17% pensent avoir un petit peu, enfin toucher un peu à ce mode de vie low-tech. Et 16% pensent qu'ils n'ont absolument pas un mode de vie low-tech. Qu'en pensez-vous ?
Ce sont des chiffres qui sont un peu mitigés, parce qu'on a quand même une majorité de gens qui ne pensent pas du tout avoir un mode de vie low-tech.
Oui.
Je trouve ça beaucoup quand même.
Je pense que oui, si on additionne le absolument pas, le non pas vraiment, on arrive quand même à 58%, 59% même, de réponses plutôt négatives, alors qu'on a bien vu dans la première question qu'on a posée qu'ils étaient au courant, qu'ils connaissaient le low-tech et qu'ils étaient donc sensibilisés. Donc il y a quand même un parallèle assez étrange entre le fait que les gens savent ce que c'est et peut-être même trouvent ça important, et pour autant ils considèrent que leur mode de vie n'est pas dans cette lignée-là. Donc il faudrait qu'on les pousse à faire des actions, peut-être qu'on les sensibilise pas de la bonne manière pour l'instant, et qu'il faudrait, maintenant qu'on sait ce que c'est, qu'on agisse réellement. Et moi personnellement, j'avoue que je mange de la viande, je me déplace certes en vélo, mais bon, c'est Compiègne, et que je n'ai pas forcément un mode de vie low-tech, alors que je fais quand même une émission avec vous sur ce sujet-là.
Après, c'est à titre de comparaison, par exemple, on peut ne pas se trouver low-tech, mais par rapport à une personne tierce, on est low-tech. Enfin, un exemple tout bête, la personne à côté de moi peut taper ses cours sur ordinateur, alors que moi, c'est sur papier. La personne à côté de moi, elle peut se déplacer en voiture tous les jours, donc matin, midi, soir, alors que moi, je prends le vélo, ou même je marche. Donc voilà, des fois, on est un peu dans cette optique low-tech sans forcément s'en rendre compte. Donc encore une fois, c'est relatif.
C'est
Et je trouve que la définition, bon, on peut pas vraiment trancher dessus. Donc
C'est vrai que ça reste ce que les gens pensent d'eux-mêmes,
voilà.
Mais c'est pas forcément ce qu'ils sont dans les faits.
Ok, en effet.
Et justement, pour avoir plus de faits, on a posé cette question suivante.
Alors, la question dit, cochez si vous appliquez ce comportement au quotidien. Privilégier le vélo à la voiture, privilégier le train à l'avion, supprimer ou réduire sa consommation de viande, privilégier les produits locaux, trier ou acheter des objets recyclables et durables. Alors, la réponse qui est revenue le plus, c'était trier. À 87%, donc 87% des étudiants ayant répondu trier. C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien.
Mais c'est une pratique qui est assez courante, je pense, maintenant, que les plaques jaunes, noires, on commence à bien s'y habituer.
Mais je trouve que c'est assez ancré aussi dans notre quotidien.
Et puis, je pense que si on veut avoir un mode de vie low-tech, c'est peut-être le minimum des choses à faire. C'est vraiment un geste qui n'est pas compliqué et qu'on peut faire au quotidien. Donc,
c'est la première approche, en effet. Ensuite, la réponse qui vient juste après, c'est privilégier le train à l'avion à 71%.
Alors, je pense que déjà, on ne prend pas si souvent que ça l'avion, oui. Parce qu'on reste en France, on est des étudiants. Ouais. Donc, c'est peut-être qu'on est une population qui a plus prendre le train pour rentrer chez nous, que ce soit sur Paris, sur où vous habitiez, et que... On n'a pas forcément, on pas un grand métier, on n'a pas aller très loin. Pas aller en... Ça se trouve, si on devait aller en Norvège, en Pologne, ou je ne sais où, on prendrait l'avion et que, bah, on pas savoir si c'est réellement un bon marqueur.
Après, bon, je prends l'exemple tout bête de mon frère, qui fait ses études à Toulouse. Mes parents habitent en région parisienne. Donc, quand il rentre pendant les vacances, il ne prend pas le train, il prend l'avion. Tout simplement pour des raisons économiques, parce que les billets d'avion coûtent beaucoup moins cher et c'est beaucoup moins long que de prendre le train.
En effet.
Donc après, je pense qu'au-delà de la pensée low-tech, il y a quand même un vrai problème, j'allais dire, mais des vraies questions économiques qui se posent.
Je suis d'accord.
Parce que payer un billet de train excessivement cher pour passer énormément de temps dans les transports, bon, parfois, peut-être qu'il vaut mieux prendre l'avion. Évidemment, ça pollue plus parce que ce sont des vols intérieurs. C'est peut-être pas quelque chose qu'il faudrait faire très souvent.
Il faudrait que la politique française change et qu'on ait des passes, des trains moins chers.
Même des réductions étudiantes, je sais pas.
On en a déjà, mais c'est pas suffisant du tout.
En effet. Et même des fois, c'est une question de confort parce qu'il y a des personnes qui privilégient, comme tu as dit, leur confort au lieu de passer beaucoup de temps dans les transports. Pour pas avoir à se casser la tête,
ça c'est un problème.
L'avion.
Donc par rapport au transport, oui, peut-être qu'il y a vraiment des choses encore à changer, dans cette société.
Je pense.
La réponse qui vient par la suite, à 64%, c'est réduire ou supprimer ou réduire sa conso de viande. C'est pas mal déjà. Oui. Pour ma part, moi, j'essaye au maximum de réduire ma consommation de viande, pas du tout la supprimer. Pour être honnête, je n'envisage pas pour le moment de la supprimer.
Moi de même. Mais je pense que ma génération, qui pareil, a été quand même beaucoup sensibilisée à ça.
Ouais.
Les végétariens sont de plus en plus répandus parmi nous. Et puis, on sait que c'est une manière simple de faire, de juste. Après, en tant qu'étudiant, j'avoue que j'avais essayé, mais au début, quand je suis arrivée à vivre seule, les cordons bleus, c'était quand même très simple, très peu cher et très accessible, alors que la viande de très bonne qualité, c'est un fort coût. Mais du coup, en consommer moins, c'est moins cher.
Puis je trouve que c'est cher d'acheter, au-delà de la viande, d'acheter des produits bio.
Oui, c'est...
Je te rejoins sur ça, en effet. Je te rejoins sur ça parce que je trouve que ça a un coût plus important, en fait, et surtout de penser que, c'est forcément que ça se fait dans les marchés et tout. Donc, ça revient un peu plus cher, des fois, que de la viande. Donc, on a tendance, encore une fois, à privilégier notre confort
et
à choisir le chemin de la facilité. Alors, la réponse suivante, c'était privilégier les produits locaux à 58%. Donc ça, c'est pas mal.
Oui. C'est quand même pas tant que ça, déjà, je trouve. Mais ça pourrait être augmenté un peu plus. Après, c'est peut-être plus cher également.
C'est ce que j'allais dire. Ça peut revenir aussi au fait que le bio et les produits locaux sont un peu plus chers.
Et que on va favoriser un Auchan, un Monoprix, un marché, parce que c'est plus confortable pour nous, plus cher.
Une fois qu'on a fini le quiz, franchement, on a eu pas mal de réponses, on est assez contente.
Ensuite, écoutez, on va faire peut-être une petite interlude musique. On vous présente la musique Fake Plastic Trees de Radiohead, qui dénonce un peu la consommation de masse, et on vous laisse avec ça. She lives with a broken mind, a crackpot of stuff. Just crumbles and burns. You
Vous êtes toujours sur Radio Graphite 94.9 et vous écoutez l'émission Les Échos de l'Innovation. Nous avons eu la chance de recevoir Monsieur Stéphane Crozat, qui est enseignant au département génie informatique à l'UTC, mais aussi chercheur au sein du laboratoire COSTEC ici à l'UTC. Bonjour monsieur,
bonjour. Merci
d'avoir accepté notre invitation. Du coup, on va vous poser quelques questions concernant les low-tech. Alors, dans un premier temps, en quelques mots pour vous, comment définiriez-vous les low-tech ?
Donc c'est une question assez large, mais vous m'aviez prévenu. Disons qu'on peut, alors il y a plusieurs définitions qui coexistent, mais on pourrait, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je l'oppose assez souvent au high-tech, c'est assez basique, et plus précisément à ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire l'idée que en face d'un problème, quel qu'il soit, par exemple, je sais pas, moi, on produit pas assez de nourriture, ou on a une décroissance d'une production agricole, pour prendre un exemple, rester dans cet exemple, eh bien, il faut trouver une nouvelle solution technique. Donc il faut effectivement investir dans une recherche et dans un développement de techniques et trouver des nouveaux trucs qu'on n'avait pas avant et qui vont nous permettre de résoudre le problème qu'on a identifié. Et donc, eh bien, en procédant comme ça, on va empiler les solutions les unes sur les autres et donc faire un écosystème high-tech, donc qui est celui qu'on connaît aujourd'hui avec des ordinateurs, des réseaux, de l'électronique, des drones, des voilà, tout un tas de choses comme ça. Voilà, donc c'est en quelque sorte, j'ai du coup pas parlé du tout de low-tech, mais ça peut être une façon de définir les low-tech, c'est en opposition, en quelque sorte, ou en critique, on va dire, de cette démarche-là. Et donc, de ce point de vue-là, ça reviendrait plutôt à chercher des solutions dans lesquelles, alors, je dirais chercher des solutions, ça peut être aussi vu comme solutionniste de ce point de vue-là, mais dans lesquelles on va pas empiler des nouveaux trucs, mais on va plutôt re-réfléchir à la façon dont on procède actuellement, pour voir si on peut pas faire différemment, si on est obligé justement de réempiler des nouvelles technologies complexes, ou si au contraire il n'y a pas des réinventions à faire et des réarrangements, mais avec des choses qu'on connaît déjà ou plus modestes. Voilà pour vous donner un premier point d'entrée.
D'accord. Je vous remercie. Vous êtes du coup responsable de l'UV IS3 ici à l'UTC. Quelles sont les thématiques traitées ou les grands axes traités dans cette UV-là ?
Alors, IS3, donc, c'est low-techisation et numérique. Donc, low-techisation, en fait, je viens d'en parler un petit peu. C'est-à-dire que on le définit comme une opposition, encore une fois, critique à la démarche solutionniste. L'enjeu, c'est d'essayer de jouer sur... En fait, l'idée générale... Pardon, avant, est numérique. Et donc, on le travaille exclusivement, on va dire, dans le domaine particulier du numérique. En fait, ce qu'on fait en IS3 pourrait tout à fait s'appliquer à d'autres domaines. D'ailleurs, ce semestre, il y a un sujet sur l'hémodialyse, un domaine médical dans lequel la dimension numérique est quasiment absente. Mais en fait, on a choisi le domaine du numérique. Alors d'abord parce qu'au départ, c'est mon domaine de compétence, et puis aussi parce que c'est un peu un cas limite. Donc c'est un peu intéressant, en quelque sorte, d'aller voir ce qui se passe du côté du numérique, parce que j'ai pris l'exemple de l'agriculture tout à l'heure, mais si on prend l'habitat ou le déplacement, on voit assez vite quoi, entre guillemets, on peut faire des maisons en terre, on peut faire du vélo, etc. Donc la dimension de low-tech, elle est un peu plus facile à aborder, alors qu'avec le numérique, d'emblée, en fait, on est dans du high-tech, quoi. Alors les thématiques, donc derrière le terme low-techisation, encore une fois, il y a cette idée de réfléchir contre le solutionnisme. Donc comme je le définissais tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Et on joue sur trois grands axes qu'on appelle des valeurs. La soutenabilité, donc vraiment la dimension écologique qui est, je pense, assez bien partagée aujourd'hui. La responsabilité, là c'est vraiment plutôt la dimension sociale et humaine, donc savoir dans quelle mesure les technologies qu'on construit, qu'on conçoit, vont contribuer à la dimension sociale. Et puis, le troisième terme, c'est la convivialité. Alors, convivialité au sens technologique, c'est-à-dire dans quelle mesure les technologies qu'on conçoit, elles vont être appropriables, faciles à construire, à réparer, à utiliser par des êtres humains. Donc, plus on va travailler sur des grands systèmes, et plus on va être loin, en fait, de cette convivialité. Voilà pour vous donner un petit aperçu. Après, je vous invite à venir suivre l'UV. Vous aurez tous les éléments que vous voulez.
Vous parliez du numérique, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre quotidien aujourd'hui. Donc, selon vous, comment l'enseignement de ces thématiques va évoluer un peu dans les années à venir et quelles pourraient être les perspectives futures ?
Alors, si on me demande de prévoir l'avenir en général, voilà, on va forcément dire des bêtises. Mmh. Et puis là, franchement, j'en sais rien. En fait, c'est pas vraiment une question que je me pose, c'est-à-dire comment ça va, ce qui va se passer. Peut-être que la question qu'on se pose avec des démarches comme le cours, donc l'authéquisation numérique, et d'autres collègues qui font des choses un peu similaires. C'est pas forcément de savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire est-ce que de toute façon c'est à la fin des géants états-uniens qui vont investir massivement dans l'IA et qui vont qui vont avoir le contrôle de l'ensemble du numérique de demain ou pas. Mais c'est plutôt de savoir est-ce qu'on peut proposer des alternatives, est-ce qu'on peut jouer sur plusieurs scénarios. Donc en fait, ce scénario-là. Le développement massif de l'intelligence artificielle, le réseau mondial, les méga entreprises internationales, etc. C'est une réalité. De fait, aujourd'hui, une école comme la nôtre, comme la majorité des écoles, va plutôt alimenter des gens qui vont contribuer à ce système-là, par inertie, en quelque sorte, quoi, juste parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais la question qu'on se pose, donc, que se pose un certain nombre d'enseignants-chercheurs, notamment, qui vont essayer, c'est de voir si on peut explorer d'autres voies, si on peut faire coexister d'autres façons de faire. Alors, il y a aussi des exemples, ils sont beaucoup moins, visibles, mais il y a par exemple des entreprises qu'on appelle les licornes avec deux O. Alors vous avez peut-être entendu parler peut-être de Fairphone par exemple, qui est une des plus connues, mais il y a aussi Common par exemple qui s'occupe de la location de téléphone, il y a Télécom qui cherche d'autres réseaux, il y a la Belle Emmaüs qui est une sorte de eBay le Light ou Like ou... Et donc à chaque fois c'est essayer de chercher des modèles plus locaux, et d'une certaine façon, moi, high-tech, par exemple, Télécop, milite pour le rétablissement des cabines téléphoniques. Donc pour vous donner quelques exemples. Alors, ça peut être vu comme des choses un peu rétrogrades, mais encore une fois, c'est quand même des entreprises de high-tech. On fait quand même du téléphone, du numérique, etc. Donc la question, c'était comment est-ce que je vois l'avenir? J'en sais trop rien, mais en tout cas, l'idée, c'est de promouvoir des alternatives, par exemple, pour vous donner un autre exemple et clôturer là-dessus, aujourd'hui on utilise majoritairement des logiciels qui sont encore une fois maîtrisés par ces grandes entreprises essentiellement états-uniennes, mais il y a aussi du logiciel libre qui existe, qui sont d'autres façons de faire. Donc ça peut être faire vivre aussi ces logiciels-là, voir un peu ce que ça implique, les faire connaître déjà au niveau des élèves ingénieurs et de voir l'intérêt qu'il peut y avoir à les utiliser, à les faire vivre, sachant qu'en général ils peuvent être un peu moins sexy que le dernier iPhone, mais il y a d'autres intérêts. On peut bricoler, on peut jouer avec beaucoup plus qu'avec, par exemple, le code des iPhones, pour rester sur cet exemple.
D'accord. Et aussi, quels conseils donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient s'engager dans une démarche de l'authéquisation, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle ?
Ça, c'est une bonne question, c'est-à-dire une question que j'avais pas anticipée. Quels conseils on pourrait donner ? Peut-être que ça peut commencer au niveau d'une démarche personnelle, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait prendre les choses sous cet angle-là. En fait, il y a la question de la démarche personnelle, mais qui est aussi un piège parce que je vais y revenir, mais qui est aussi un piège parce que finalement il y a pas mal de trucs qu'on peut essayer de faire au niveau personnel, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est quand même que ça puisse être un minimum, si ce n'est généralisable, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, suffisamment large pour que ça puisse servir de modèle, enfin que ça puisse servir d'alternative. Voilà, comme je le citais tout à l'heure. Néanmoins, un point de départ, ça peut être quand même de jouer sur un certain nombre de paramètres personnels, c'est-à-dire quels sont les objets techniques, quelles sont les habitudes, les pratiques dans mon quotidien à moi que je peux modifier. Est-ce que je peux modifier ma façon de me déplacer ? Par exemple, effectivement, je ne sais pas si j'ai l'usage d'une voiture et que j'utilise régulièrement pour tout un tas de choses, est-ce que je peux faire les choses différemment, en vélo, en transport, à pied, etc. Ça peut être aussi sur la nourriture, typiquement, alors, sur la nourriture, sur le transport, on est pas mal renseigné, sur la nourriture, on est assez mal renseigné. Je pense là, par exemple, à un livre qui est sorti récemment dont je ne retrouverai pas le titre, titre, mais peut-être que vous l'aurez retrouvé à un moment, mais qui parle de des conditions de travail en Amérique centrale et en Amérique latine, je crois surtout en Amérique centrale, pour la culture de fruits et légumes que nous on va manger hors saison. Et donc effectivement, au moment où on achète un avocat ou au moment où on achète voilà, enfin du coup je sais plus exactement sur quels sont les fruits et légumes sur lesquels ils travaillent, mais eh bien en fait ils décrivent la dureté de leurs conditions de travail derrière. Donc encore une fois, là je parlais de responsabilité tout à l'heure, on n'est pas uniquement sur des questions écologiques, on est aussi sur ce qu'implique le fait de prendre à un moment un fruit ou un légume dans le rayonnage d'un supermarché. Mais en fait, on peut aller creuser, se poser ces questions-là, et du coup faire des choix par rapport à ça. Et ça, c'est des choix relativement simples, parce qu'en fait, typiquement, au niveau de l'alimentation, il ne s'agit pas d'arrêter de manger, donc c'est assez facile à transformer. Et puis après, on parlait de notre univers numérique, et bien évidemment, il y a alors typiquement, au niveau du numérique, un des premiers points, enfin, un des premiers coûts aujourd'hui environnemental, c'est le remplacement du matériel et le développement du matériel. Donc voilà, on a mis en place la 5G, on va mettre en place la 6G, etc. Et à chaque fois, tout ça, en fait, c'est des infrastructures, du renouvellement de matériel qui devient incompatible, etc. C'est votre ordinateur qui est un peu plus lent et qu'on va changer, voilà, etc., etc. Et donc, par rapport à tout ça, c'est se poser des questions sur... quelles sont les alternatives techniques qui existent. Je parlais par exemple de systèmes libres qui peuvent parfois prendre le relais. Ça peut être nos usages au quotidien aussi, hein, des outils des GAFAM, du mail Google, de l'agenda Google, des médias sociaux, d'un Instagram, etc. Voilà. Donc en gros, ça peut être se poser des questions autour de ça et de voir s'il y a des moments où on peut faire déjà l'expérience. Il ne s'agit pas forcément de se dire « Ok, je vais arrêter demain tout », mais faire l'expérience, se dire « Ok, qu'est-ce que ça donne un mois sans ci ou un mois autrement ?» Et puis s'il y a des choses qui s'installe, effectivement, voir, essayer de commencer peut-être à imaginer comment c'est transférable à une plus large échelle. En tant qu'ingénieur, ça peut être demain, effectivement, ce que vont produire les entreprises dans lesquelles on va travailler, dans lesquelles vous allez travailler. Ça peut être comment est-ce qu'elles vont fonctionner, ça peut être typiquement, je terminerai peut-être là-dessus, mais je parlais des licornes tout à l'heure, donc c'est des systèmes coopératifs, donc c'est des alternatives au système capitaliste classique, donc ce ne sont pas des actionnaires qui possèdent une entreprise et qui font travailler des salariés, mais ce sont des salariés actionnaires ou des salariés qui participent ensemble en fait à la cogestion de l'entreprise. Donc c'est des modes assez différents et voilà, ça peut être des sphères d'action en fait que peuvent avoir. Alors j'avais dit que je terminerais, j'ai menti, mais vous voyez, en fait quand vous m'avez parlé de low-tech, vous attendiez peut-être plus à ce qu'on parle, je sais pas quoi moi, de comment est-ce qu'on bine son jardin ou comment on construit un vélo soi-même, je sais pas, mais vous voyez qu'en fait dans la façon dont on travaille ici à l'UTC, pas mal, ça va vraiment au-delà de ça quoi, c'est vraiment se poser des questions vis-à-vis de la technique, se mettre dans une posture critique vis-à-vis de la technique d'une façon générale. Et qui peut être aussi justement comment on s'organise pour faire des objets. Quoi.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que l'encapacitation ?
Là, ouais, j'ai la réponse.
C'est plus simple.
C'est l'idée justement de... alors, encapaciter, hein, donner les capacités d'eux. Et donc, ça va, là où ça résonne aussi très bien avec le concept de low-tech, c'est que... En fait, plus on a des objets qui vont être high-tech et plus ils vont rendre des services souvent de façon assez efficace, mais moins en fait on va avoir nous-mêmes la capacité de modeler, de diriger, de choisir le fonctionnement de ces objets. Ivan Illich, qui était un penseur, on va dire, des années 1970, disait qu'un objet convivial, c'est le terme qu'il utilisait, c'est un objet qu'on pouvait utiliser aussi souvent qu'on le voulait et ne pas utiliser aussi souvent qu'on le voulait. Donc c'était cette idée qu'on a le choix en quelque sorte vis-à-vis de nos objets. Donc on a le choix de les utiliser, mais on a le choix de pas les utiliser. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de pas utiliser un ordinateur. Vous n'avez pas le choix de pas utiliser un ordinateur dans votre vie quotidienne. Vous n'avez pas la compétences qui permettent de réparer un ordinateur. Si votre ordinateur est casse, même si juste on a fermé une fenêtre parfois, eh bien on ne sait pas, parce que ce sont des objets extrêmement complexes et qui sont énormément complexifiés, et que finalement on consacre très peu de temps à savoir comment fonctionnent ces objets. Mais en fait, c'est aussi vrai pour une voiture. Je suis absolument incapable de réparer ma voiture. J'en ai une certaine idée du fonctionnement, et encore, il y a plein de couches que je connais pas. Mais même mon vélo électrique, du coup, voilà, il y a tout un tas de bouts. Et en fait, on consacre pas de temps. On a tellement d'objets, tellement de surface technique avec tellement d'objets, qu'en fait, on consacre très très peu de temps à savoir comment ces objets marchent, comment on peut les réparer, comment on peut faire autrement, etc. Et donc, on peut considérer que d'une certaine façon, voilà, les mouvement technocritique défend beaucoup ça, mais donc cette idée qu'à un moment l'évolution technique nous décapacite, nous enlève des capacités de maîtrise dans notre environnement technologique. Et donc la low-tech, d'une certaine façon, c'est une façon de se réencapaciter, donc se redonner la possibilité. Alors, ça implique souvent des objets beaucoup plus simples, parce qu'évidemment, on peut considérer qu'il est impossible pour un être humain de maîtriser l'ensemble des objets qu'il va manipuler. Donc du coup, peut-être moins d'objets, peut-être des objets plus simples, et puis peut-être aussi des effets des effets de réseau, de communauté qui font qu'on va être capable, à l'échelle d'une communauté, qu'on puisse toujours connaître quelqu'un qui va être en capacité de faire ceci ou cela. Mais aujourd'hui, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que vous connaissez personne qui est en capacité de, probablement personne, qui est en capacité de vraiment démonter votre ordinateur, le réparer, etc.
Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous interviewer aujourd'hui.
Alors, après cette interview, c'était enrichissant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai beaucoup aimé. Ça a éclairé beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'on va revenir sur quelques points qu'il a apportés.
Alors, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette interview, c'est qu'en fait, il n'a pas abordé les low-tech comme nous, on le conçoit. C'est-à-dire, il a même dit, on n'a pas parlé d'objets en tant que tel, mais c'est plutôt un mode de pensée. Et en fait, c'est le fait de chercher des alternatives qui seraient en fait low-techisantes dans une société dans laquelle on vit. Donc je perçois plus les low-tech maintenant comme étant un mouvement en quelque sorte de résistance à une société qui est très très high-techisante.
Oui, tout à fait. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, il ne l'a pas forcément explicité, mais je trouve que transiter du high-tech au low-tech, c'est vraiment c'est une marche à passer. C'est pas un truc qui est forcément évident. Parce que en soi, c'est un peu sortir de sa zone de confort. C'est accepter, pas forcément de se priver, mais de pas surconsommer, de pas acheter, je sais pas, le dernier iPhone juste parce qu'il est beau, il est plus performant, etc. Donc c'est en plus que ce soit des belles technologies, un vrai mode de pensée.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est justement un lien entre high-tech et low-tech qu'on avait un peu abordé. Il a aussi traité le terme de convivialité dans la définition même de la low-tech, alors qu'on n'avait pas du tout pensé à ça. Vous pensez quoi de ce terme et que ça vous évoque quoi après vous avez compris?
Alors en fait, pour moi, la convivialité dans l'aspect low-tech, c'est plus une question de reliance. Ça veut dire que ça favorise le partage et le partage de savoir, mais aussi de savoir-faire surtout. Ça favorise aussi une certaine coopération, une solidarité, une cohésion sociale. Et ça, en fait, ça vient renforcer les liens sociaux parce que quand on adapte un mode de vie low-tech, on a tendance à sortir sa zone de confort. Et donc en fait, on a tendance à poser des questions, demander de l'aide, etc. Et donc voilà, un moment de partage et de convivialité qui se crée.
C'est un truc hyper positif que crée low-tech encore. Il y avait aussi le fait que nous, on avait traité la nourriture tout à l'heure dans le quiz et les gens disaient qu'ils arrêtaient de manger de la viande. Donc, sincèrement, je pensais connaître l'alimentation et je pensais savoir comment agir dessus. Mais alors que lui, quand il a traité, il a dit que c'est quelque chose sur lequel on s'est très mal renseigné. Et c'est vrai que le recul, les avocats, j'en achète régulièrement parce que c'est très bon, alors que c'est produit hyper loin, ça consomme beaucoup d'eau et c'est pas du tout. C'est pas du tout la bonne saison en fait. Même les bananes, j'en mange toute l'année, alors que je suppose qu'il y a
une saison particulière. Il parlait même aussi de l'éthique qu'il y a derrière, des conditions de travail par exemple, et ça on n'y pense pas forcément quand on achète des fruits et des légumes. Donc c'est très intéressant d'avoir une pensée qui va au-delà de la low-tech en elle-même. Donc.
Et je pense que même nous, justement, tu as fait, Sarah, l'appli sur ça. Nous, on a quand même travaillé sur une UV qui est déjà IS0 et on va sûrement faire IS3 un jour. Et malgré ça, on se rend compte assez vite à quel point on est quand même très mal renseigné, à quel point on ne connaît pas tant que ça ce sujet-là.
Après, c'est une bonne chose qu'ici à l'UTC, par exemple, on ait accès à des UV comme ça, à des projets. Donc en fait, je trouve qu'il y a un travail de sensibilisation qui est assez important, il ne faut pas négliger.
En tout cas, qui est en train de progresser et de se développer complètement.
Exactement. Je pense qu'effectivement, si on veut, on a les moyens de se renseigner et même d'agir.
Voilà, tout à fait.
Après cette interview, on vous laisse avec une deuxième interlude musicale de Carbon Monoxide de Cake.
Produit en 2004.
much carbon monoxide for me to after car, after truck, after this, my lungs will be so fucked up. I wish I wasn't just a pedestrian, breathing all this in. I look up at that gray sky, it makes me want to.
Vous êtes toujours sur Radiographie, vous écoutez l'émission Les Échos de l'innovation. Nous allons désormais recevoir Sylvestre Châtaignon, qui est coprésident et responsable tech de l'association Compiègne en Transition au sein de l'Université de Technologie de Compiègne. Bonjour Sylvestre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Donc pour commencer, si tu pouvais nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'association CET, Compiègne en Transition, pourquoi elle a été créée?
Oui, alors l'association Compiègne en Transition, elle a été créée il y a une dizaine d'années maintenant, donc pour accompagner à l'origine les étudiants et les habitants de Compiègne dans leur transition écologique. Aujourd'hui, il y a deux associations. Il y en a une qui s'appelle PSEC, Compiègne en Transition, qui est rattachée à l'UTC, et on en a une autre qui s'appelle tout simplement Compiègne en Transition, et là qui est plutôt avec les habitants de la ville. Donc d'accord. Moi je fais partie de celle de l'UTC.
Donc quel est ton rôle précisément au sein de CET?
Alors je suis coprésident de CET et responsable de la team low-tech, donc qui est une équipe qui travaille justement à la promotion et à la réalisation de systèmes low-tech.
D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour atteindre vos objectifs et pour sensibiliser les gens au low-tech?
Alors on a fait le semestre dernier et le semestre encore avant des API low-tech. Donc c'est des semaines dédiées à la construction d'objets low-tech. Donc on a réalisé par exemple des marmites norvégiennes, des séchoirs solaires, des récupérateurs d'eau de pluie, des systèmes comme ça. Et puis ce semestre, donc depuis 2 mois maintenant et jusqu'à l'été, on a tous les mercredis de 17h30 à 20h ce qu'on appelle une perm low-tech. Donc en fait on se retrouve dans un jardin à côté du centre Benjamin Franklin pour construire des objets low-tech ensemble, faire du bricolage plus généralement, et puis aussi accompagner les étudiants dans leurs projets perso de bricolage ou de low-tech.
Oui, et on avait vu aussi que vous organisiez des fresques du climat, je crois, et de la biodiversité. Si tu pouvais nous expliquer en quoi ça consistait.
Oui, alors les fresques du climat, donc ça se fait en général à toutes les rentrées. C'est une activité qui prend 3 heures à peu près, dans laquelle on rassemble les étudiants autour d'une thématique qui est de comprendre la chaîne de causalité entre les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur la biodiversité, qui mènent jusqu'à la fin à des conflits, des tensions, des pressions sur les ressources. On a aussi une fresque de la biodiversité qui reprend le même thème sur la biodiversité, et on a également aujourd'hui une fresque des low-tech aussi qui se développe, pareil, pour comprendre toute la sphère des low-tech, tous les enjeux qui gravitent autour de ces thématiques.
Est-ce que tu penses que CET, ça a un réel impact dans la ville et dans le mode de vie des Compiénois?
Alors, CET Ville, du coup, ça va plutôt être leur tasse de thé. Nous, on va plutôt s'intéresser aux UTCens, justement, au mode de vie des UTCens. On travaille sur certains projets avec eux. Mais alors, je ne pourrais pas répondre pour la ville, je vais répondre pour les UTCens.
Pas de problème.
Effectivement, ça a un réel impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie lame de fond sur la low-tech, sur l'écologie. On a le label IES qui a été créé. On a le collectif low-tech qui regroupe des étudiants, des enseignants-chercheurs, des membres de l'administration aussi. Donc une vraie énergie qui se met en place sur ces thématiques. Et nous, on est là au sein de CET, du coup CET-UTC, on est là vraiment pour accompagner la réalisation concrète de la low-tech.
Le label IES, c'est quoi exactement? C'est quoi un label, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est?
Alors le label IES, donc un label, c'est une mention sur le diplôme qui certifie de certaines compétences. En l'occurrence, label IES, c'est pour label ingénierie soutenable, donc qui est une formation particulière, une suite d'unités de valeur qu'on doit prendre, une suite de matières qu'on doit suivre, et réaliser aussi un portfolio justement pour témoigner de ses connaissances sur les enjeux écologiques, sur la low-tech. Aussi, il y a toute une partie remise en cause de notre point de vue culturel, faire un pas de côté par rapport à notre vision occidentale du monde. Donc ça, c'est valorisé justement à travers la mention sur le diplôme.
D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'en dehors de l'association, l'UTC met assez d'actions en place pour peut-être sensibiliser les étudiants à l'écologie, le low-tech, de manière générale ou pas ?
Alors, il y a une partie de la direction dont c'est la mission. Donc effectivement, ils nous accompagnent sur certains projets, notamment ils nous ont aidés à projeter des films sur la low-tech, parce que voilà, faut payer des droits quand on veut projeter un film, à nous organiser aussi sur ces thématiques. Il faut bien comprendre que la low-tech à l'UTC et l'écologie en général, telle qu'elle se fait à l'UTC, c'est un mouvement qui vient du bas, c'est-à-dire qui vient des enseignants-chercheurs, qui vient beaucoup des étudiants aussi, et qui après vont chercher à transformer l'administration et la manière de faire les enseignements à l'UTC. Donc je dirais que l'administration est un allié, mais pas un moteur dans la transition.
D'accord.
Est-ce que vous avez des projets pour le SPES pour les années à venir ? Et qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré au sein de CET ou même d'administration plus généralement ?
Alors, au sein de CET, on travaille actuellement à la création, enfin à la reprise et à l'amélioration du Forum de l'ingénierie soutenable, le FIS. Donc, il est là pour donner des perspectives au-delà, justement, du cursus de formation d'ingénieur, c'est-à-dire après dans quelles entreprises on va travailler, pour après aussi pousser ces entreprises à la transition écologique, au développement de la low-tech. Donc ça, c'est un des gros chantiers de CET pour le prochain semestre. Évidemment, continuer toutes les permes low-tech, le jardinage, oui, le bricolage, la sensibilisation, l'organisation d'événements, d'apéros engagés, comme ça a pu se faire les semestres précédents aussi. Pour ce qui est de l'administration, je pense que notre rôle aussi, c'est de continuer à faire pression pour que justement on pousse à ce que l'UTC soit un phare, soit vraiment un guide parmi les écoles d'ingénieurs dans son engagement écologique, dans son engagement sociétal. Et donc je pense que ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Notamment, on a des questions territoriales sur le canal. On a des thèmes aussi sur la ville de Compiègne, notre rapport à construire avec l'urbanisme de Compiègne, l'utilisation du vélo, etc. Donc il y a beaucoup de chantiers à entreprendre et je suis assez optimiste pour la suite.
Bah, très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Donc c'était Sylvère Châtaignon, responsable et low-tech et coprésidente de l'association Compris en Transition. Interview très intéressante de la part de Sylvère Châtaignon.
En effet.
Et il parlait de l'engagement des étudiants dans la sensibilisation des ingénieurs à l'UTC. Et il nous a fait part aussi également d'une sous-branche de Compris en Transition qui s'appelle HIL, donc Habitat Écologique Autonome Low-Tech. Vous pouvez aller voir leur compte Instagram si vous voulez, HEAL.UTC. Voilà, qui est un projet UTC1 de construction d'habitat. C'est très intéressant si vous voulez un peu vous intéresser un peu plus au low-tech.
Surtout qu'on a vu que les jeunes UTC1, même les jeunes étudiants, et je pense que ça peut s'allergir à beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on a beaucoup de choses c'est comme, qui font qu'on se renseigne sur le low-tech, sur l'écologie. Je pense que c'est un mouvement de sensibilisation qui fait dans toutes les écoles d'ingénieurs. Là, on parlait d'un label, donc ça montre quand même bien que en tant qu'ingénieur, tu montres comme étant compétent en ingénierie soutenable. Mais on n'agit quand même pas assez. C'est beaucoup de diplômes, beaucoup de connaissances comme ça. Mais ben, nous, je ne sais pas si vous avez par exemple vous avez déjà une permanence de CET, si vous avez déjà. Moi, je sais que je ne connaissais même pas HIL avant cette interview.
Moi non plus. Moi non plus, pour être honnête.
Donc ça montre bien et j'espère que ceux qui nous écoutent seront incités à plus agir et se renseigner vraiment, à justement les soutenir eux et participer aux actions, parce que je pense que c'est important à faire.
Parce que c'est aussi à nous d'agir, parce que comme Sylvère l'a dit, l'administration aide mais n'est pas forcément actrice vraiment dans ce domaine-là.
Donc en fait on remarque qu'il y a vraiment une importante volonté de la part des UTC1, surtout des membres de CET, parce que comme il a dit c'est une pression constante en fait qui mettent à l'administration pour qu'elle soit à leur côté, et donc il faut les saluer franchement, big up à eux. mais aussi ce qui est très intéressant de souligner, bon Sylvère on l'a pas très évoqué, mais c'est le fait que ce soit élargi surtout Compiègne en fait.
Oui, c'est pas réservé qu'aux étudiants.
Et ce n'est pas réservé qu'aux étudiants. Et donc en fait, ça montre vraiment que voilà, il y a cette volonté d'agir, de changer et d'introduire du coup les low-tech qui même sensibiliser surtout à au low-tech. Voilà.
Et même si les gens ne sont pas de l'école, même si ils ne sont pas forcément de Compiègne, il y a aujourd'hui plein de mouvements qui se font. Renseignez-vous autour de vous, parce que je suis à peu près sûre qu'il y a des activités à faire, même des connaissances, etc. Et même le principe de low-tech, c'est juste agir par soi-même, et que ce soit ton mode de vie ou ton mode de construction. Il y a vraiment de quoi s'engager. Et après quelques recherches, j'avais remarqué qu'il y avait des festivals low-tech, il y avait des conventions, des conférences. Donc vraiment, il faut maintenant que tout le monde connaît bien, que tout le monde est bien sensibilisé, c'est pas encore tout le monde, mais que ce travail-là a été vraiment effectué, que les citoyens français et même dans le monde entier soient plus dans l'action.
Voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais... Le fait que CET existe ici au sein de l'UTC, en fait, ça vient renforcer cet aspect de convivialité. On n'avait pas du tout pensé ça au début, mais en fait, quand Monsieur Stéphane Crozet, du coup, l'a introduit et que Silver a vraiment souligné tout ce que CET faisait, et bah voilà, comme tu l'as dit, Lise, les festivals, toutes les conventions en fait qu'il y a, et bah voilà, on est vraiment dans cet esprit de partage, de savoir-faire, de connaissances et aussi de convivialité.
Oui, c'est vraiment une communauté. Voilà. Et je sais pas vous, mais moi, cette émission m'a un peu donné envie de faire plus pour les low-tech, avoir un mode de pensée un peu plus, pas écologique, mais oui, voilà, faire en sorte de moins polluer et de prendre en compte cet aspect-là.
Et alors, allons en permanence CET la semaine prochaine. Et nous vous retrouvons dans une émission dans deux semaines pour la conquête spatiale. Donc, soyez à l'écoute de Graphite et à bientôt.